Nous sommes dimanche et nous sommes le 2 février 2025. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans votre émission, le QG de l'actu, votre émission hebdomadaire qui passe tous les dimanches sur les différentes stations FM du groupe Djoliba, celle de Bamako 105.0, Sikasso 103.8, mais également Ségou 100.1. Et vous qui nous regardez actuellement sur les différentes pages du groupe Djoliba, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce énième numéro de votre émission qui va se pencher sur deux thématiques, à savoir CDAO, AS, le divorce. Et après, oui, ce n'est plus un secret, les trois États de l'AS, à savoir le Mali, en tout cas le Niger et le Burkina Faso, comme vous pourrez vous rendre compte sur cette image, en tout cas une image très symbolique où nous voyons ici le retrait justement des trois pays, en tout cas des instances de la CDAO. Nous voyons ici en tout cas le drapeau du Mali, le vert, le jaune et le rouge. Et voilà, cette couleur, ces différentes couleurs aussi, va suivre justement celle du Burkina Faso, mais aussi du Niger. Donc, les trois États ne font plus partie de la CEDEAO. Que peut-on justement nous attendre justement de cette sortie des trois États de la CEDEAO? Ce sera donc la question que nous allons essayer de poser à nos différents invités. Deuxième sujet de ce débat, sortie du ministre Mamani Nassiri. Oui, c'était justement le jeudi dernier, au cours en tout cas d'un point de presse, que le ministre délégué chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral a justement lâcher cette phrase selon lequel le ministre disait ceci: nous n'avons pas de loi électorale ni de fichiers conformes pour aller aux élections. Ces propos sont justement recueillis à travers nos confrères de l'Indépendant. Que faut-il entendre parler justement de cette déclaration du ministre en charge justement des réformes justement et du soutien au processus électoral? Ce serait donc le deuxième sujet de ce débat. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dr Amadou Touré, hein, il est justement analyste politique et sécuritaire au Mali. Docteur, bonsoir.
Bonsoir Omar, bonsoir aux co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices, notamment aux différentes stations régionales.
Merci à vous, Monsieur Touré, d'avoir accepté notre invitation. Deuxième invité de ce débat, c'est Abdallah Yattara. Il est le président des consultants du Mali. Monsieur Abdallah Yattara, bonsoir.
Bonsoir, merci Monsieur Traoré pour l'invitation. Et salut à mes co-débatteurs.
Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Troisième invité de ce débat, Issouf Sissoko. Il est fondateur du groupe Alternance. Monsieur Sissoko, bonsoir.
Bonsoir Traoré, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur les différentes plateformes digitales, comme les radios FM de Djoliba et FM. Merci.
Merci à vous, M. Sissoko, aussi d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tout à l'heure, l'AS, voilà, justement, les États de l'AS, l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, sont justement définitivement retirés, en tout cas, si on peut s'en tenir, hein, sur la demande faite à travers, justement, une déclaration de ces trois pays. Il y a cela un an que ces trois États avaient justement demandé un retrait immédiat des instances de la CEDEAO. Il fallait justement attendre un an pour que cette décision puisse rentrer en vigueur. Et ces choses faites depuis le mercredi dernier, car les États, les trois drapeaux ne flottent plus aux côtés des de autres drapeaux des pays de la CEDEAO. Alors, docteur Touré, justement, les États de l'AS ne font plus partie de la CEDEAO, c'est déjà acté. Maintenant, quelle est justement, cette image que vous voyez sur vos petits écrans, qu'est-ce que cela vous dit, docteur?
Bon, cette image montre ou prouve à suffisance que la séparation est actée officiellement, mais en ce que cela n'en tienne, il n'est pas facile que des individus qui vivaient ensemble durant 50 ans se séparent. Donc il y a toujours l'émotion mélangée à la tristesse et mélangée aussi à la joie, parce que ça a été demandé par les pays membres de l'AS. Maintenant, ce qu'on peut retenir de cette séparation, qu'est-ce qui va se passer après? C'est la grande question que nous nous posons. Et heureusement, la CEDEAO a fait parler la raison plus que la passion, parce que la CEDEAO a dicté des mesures transitoires qui seraient au nombre de 4, à mon avis, notamment la libre circulation des personnes et des biens, l'intégration économique, l'intégration des communautés, et surtout, les mesures transitoires se rejoignent aussi dans les déclarations faites par les pays membres de l'AS. Donc, à ce jour, il n'y a pas eu un grand changement, si ce n'est que le statut officiel du retrait. Les fonctionnaires sont bien traités, notamment ceux qui sont au niveau de la CEDEAO. Et réciproquement, il y a toujours le traitement qui continue. Mais au-delà de tout, nous attendons, nous observons. Dans le communiqué de la CEDEAO, nous avons constaté aussi qu'il y a un changement de ton. Un changement de ton pour dire que, au-delà des discussions, des tensions au niveau des chefs, au niveau des dirigeants, et cette déclaration ne traduit pas qu'en réalité il y a des tensions au niveau des chefs. Donc les peuples se reconnaissent dans les mesures prises par la CEDEAO. Malgré que c'est des mesures transitoires, nous osons espérer qu'après les discussions vont continuer et que la raison va certainement gagner. La solidarité, la sagesse, les liens seront traités pour que nous puissions rester ensemble malgré qu'il y a les décisions politiques qui ont décidé autrement.
Ok, oui, justement, M. Touré parlait tantôt de séparation difficile, sinon de douloureuse séparation, parce que, en tout cas, des pays qui ont côtoyé ensemble pendant 50 ans, qui se séparent aujourd'hui, justement, M. Sissoko, il y a de quoi s'inquiéter, surtout que nous avions quand même vu pendant cette semaine aussi, cette CEDEAO qui était agonisante, qui est finalement morte de sa belle mort. Comme on a pu voir sur certaines images dans certains pays où la CEDEAO a carrément été enterrée.
Oui, elle a été enterrée. Je crois que les qualificatifs qu'on vient d'attribuer à la séparation sont des qualificatifs qui collent bien, en tout cas à la situation. Une séparation à la fois douloureuse et émouvante. Douloureuse en ce sens que, après 50 ans de collaboration, s'il faut justement se séparer comme ça, de cette manière, c'est vraiment douloureux. Et émouvant parce que tout simplement, c'est des peuples qui sont intégrés, qui sont imbriqués les uns les autres. Alors s'il faut justement prendre des mesures pour justement séparer ce peuple-là, c'est vraiment émouvant. Mais bon, comme les autorités des trois pays en ont décidé ainsi, je crois que les peuples de ces pays-là ne peuvent qu'observer. Alors pour ce qui est en tout cas de l'acte, moi, souvent, la question que je me pose est celle de savoir est-ce que les autorités de trois pays ont mûrement réfléchi. Parce que, pas plus tard qu'hier, je me suis quand même un peu évertué à lire un peu les différents projets, les différents programmes que la CEDEAO a financés ou la CEDEAO est en train de financer. Alors, et surtout à travers la BICD et la BOAD. Donc, franchement, je me pose la question, est-ce qu'on a mesuré l'impact, en tout cas les conséquences de notre séparation? Et surtout que, jusqu'à preuve du contraire, il a parlé de sagesse de la part de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas cédé, en tout cas, à l'émotion, à la passion. C'est pourquoi elle va se donner le temps, en tout cas, de la tenue d'une instance de chef d'État pour décider justement de la conduite à tenir vis-à-vis de ce pays-là. Je peux citer juste quelques projets. Par exemple, le projet d'électrification de la CEDEAO. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'aide, si vous voulez bien, alimentaire, qui s'élève à 17 000 tonnes. Et c'est 17 000 tonnes, en tout cas, qui est, si vous voulez bien, le stock alimentaire régional. Et 52%, en tout cas, de ce stock-là était pratiquement consacré aux trois pays de l'AS. Et en plus de ça, il y a tellement de programmes qui étaient financés. Donc, bref, le chiffre, en tout cas, de financement des projets de la CEDEAO s'élève à 500 millions de dollars US. Donc, imaginez, est-ce qu'on doit cracher sur de tels projets? Est-ce qu'on doit justement se priver de tels avantages? Je dis encore une fois de plus, c'est-à-dire que certains facteurs n'ont pas prévalu avant de prendre cette décision. Mais puisqu'il est, elle est prise, donc vraiment nous ne pouvons que constater maintenant et savoir en tout cas ce qu'on doit poser réellement comme acte pour que nous puissions sentir moins les conséquences en tout cas de cette séparation.
D'accord, sentir moins les conséquences de cette séparation. Abdallah Yattara, qu'est-ce que les pères fondateurs qui aujourd'hui sont de l'autre côté de ce monde, est-ce qu'aujourd'hui, comment vont-ils se sentir? Je vais parler des pères fondateurs de cette CEDEAO. Est-ce que c'est un sentiment de fierté peut-être qui les anime de là où ils sont aujourd'hui ou bien c'est juste simplement un sentiment de regret, d'amertume qu'ils peuvent ressentir aujourd'hui?
Je pense les deux à la fois. Je crois que donc s'est retourné aujourd'hui plusieurs fois dans leur tombe aujourd'hui pour vraiment évaluer la situation qui se passe aujourd'hui. Et moi, personnellement, c'est avec tristesse, vraiment une grande émotion que j'ai vu le drapeau du Mali être pratiquement descendu de parmi les 14 autres drapeaux, parce que pour moi, je ne m'intéresse pas au cas du Burkina du Mali, du Niger plutôt. Mais c'est vraiment un moment d'émotion, vraiment. Après 50 ans de coopération, 50 ans d'intégration, quoi que c'est très difficile ces moments-ci. Mais je crois que moi, je ne perds pas toujours espoir. Je perds pas toujours espoir en ce sens que je m'inscris en droite ligne du 45e, du 44e point de la différence de la dernière conférence des chefs d'État qui fixe la période transitoire entre le 29 janvier et le 29 juillet 2025, non seulement pour continuer les négociations avec Faure Gnassingbé et puis Bassirou Diomaye Faye, mais aussi pour mettre un peu en branle les modalités de séparation. Vous comprenez, donc pour moi, il n'y a pas pour le moment, je ne perds pas trop espoir. Mais très honnêtement, on aurait dû crier sur tous les toits, on a alerté, notre rôle de veille citoyenne, on l'a activé. Mais malheureusement, on n'a pas été entendu. On n'a pas été entendu et je crois qu'on l'acte maintenant, pas de gaieté de cœur. Mais espérons que nos chefs d'État, particulièrement le général Darma Assimi Gota, puisse revenir à de meilleurs sentiments et de meilleures raisons avant la fin de la période transitoire. Vous savez, c'est ce qu'on l'a dit, effectivement, il y a 27 projets et programmes qui sont en cours d'exécution dans ces trois pays-là. Il y a à peu près 500 millions aussi de fonds BIDC qui servent aussi à financer beaucoup de projets dans ces trois pays-là. Il y a 131 personnes qui travaillent dans les structures CEDEAO. Vous comprenez, s'il faut mettre tout ça s'il va falloir arrêter tout ça aujourd'hui du jour au lendemain, je crois qu'on a pris une grave décision, une décision historique. Et je crois, comme je l'ai dit une fois, je crois que Assimi est en train de mener le Mali vers une aventure très incertaine avec l'AIS. Et je l'ai dit, avec l'AIS, c'est toujours une réalité dans sa charte fondatrice, uniquement la sécurité au niveau de la zone des trois frontières. Mais au-delà, je ne suis pas pour l'AIS. Comprenez. Donc, moi, je crois que Assimi a pris une décision historique aujourd'hui de mettre fin à une intégration de 50 années. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui que lui-même fasse un peu son mea culpa par rapport à ça. Il y a deux grandes décisions au cours de cette transition qui ont vraiment littéralement séparé les Maliens. Pour la première fois, la loi fondamentale de la 4e République a complètement divisé les Maliens, contrairement à la loi fondamentale de 1974 et contrairement à la loi fondamentale, la première loi fondamentale. Et ça aussi, cette deuxième décision aussi de retirer le Mali de la CEDEAO, les Maliens n'ont jamais été autant divisés. Et ça doit interpeller le président de la transition aujourd'hui. C'est vraiment une décision historique, une décision d'une grande portée historique et qu'il assumera peut-être les conséquences un jour, mais espérons. Espérons de tout cœur qu'Assim puisse revenir à des meilleurs sentiments avant la fin de la période transitoire.
Très bien. Avant de passer la parole à Dr Touré, rapidement, vous parliez tantôt de ces deux médiateurs qui avaient été justement nommés par la CEDEAO pour essayer de faire revenir les trois États de l'AS au sein de l'institution sous-régionale, à savoir le président togolais Faure Gnassingbé, mais aussi le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce retrait qui est déjà acté, c'est un aveu d'impuissance aussi de la part de ces deux chefs d'État, sachant bien qu'on sait très bien que les autorités maliennes, puisque vous vous appesantissez un peu sur le Mali tout à l'heure. On sait très bien que le Mali entretient aujourd'hui, en tout cas de rapport très étroit avec le Togo du président Faure Gnassingbé. Est-ce qu'aujourd'hui, quels peuvent être aussi leurs sentiments vis-à-vis de ce retrait acté?
Vous savez, et bien ça va en réalité. Et très clairement que le retrait de la CEDEAO n'est motivé par autre chose que pour échapper au protocole additionnel par rapport à la démocratie et à la bonne gouvernance. Sinon, pratiquement, ça n'a pas de sens. Et la preuve, le communiqué que l'AIS elle-même a fait avant la conférence des chefs d'État de la CEDEAO témoigne en suffisance qu'en réalité, l'AIS entérine toutes les autres décisions de la CEDEAO, à savoir la libre circulation des biens des personnes, le droit d'établissement, ainsi les pièces administratives aussi en ce qui concerne la carte d'identité biométrique et puis le passeport biométrique, c'est la CEDEAO. Mais en réalité, aucun mot sur la démocratie et la bonne gouvernance. Donc moi, j'ai dit que ces trois pays ne sont motivés que par ça, échapper à la démocratie et à la bonne gouvernance. Quel que soit le fait, j'ai dit, le Premier ministre l'a dit toujours, nous sommes dans une transition démocratique. Si effectivement nous sommes dans une transition démocratique et que nous ne sommes pas dans une transition militaire, je ne vois pas qu'est-ce qui empêche à notre pays d'accéder à la démocratie, à la bonne gouvernance, au protocole additif. Donc moi, je crois qu'on a fait fausse route ici. Espérons, je suis un éternel optimiste. Donc je crois que Assimi reviendra à des meilleurs sentiments avant la fin de la période transitoire. Surtout qu'au partir du 29 juillet, en réalité, les chefs d'État de la CEDEAO finiront par prendre une décision par rapport à certains points qui vont accepter jusqu'au 29 juillet.
D'accord.
Mais à partir du 29 juillet, beaucoup de décisions vont rentrer en ligne de compte et maintenant on assumera les conséquences.
Ok. Avant cette date fatidique, Dr Touré, parlant du 20 de juillet prochain, effectivement, les chefs d'État ont quand même laissé une marge de manœuvre, en tout cas ces trois États, et lors de d'un communiqué que nous avons en tout cas vu sur les réseaux sociaux, la CEDEAO dit mais effectivement que les États de l'AES vont continuer à jouir de tous les avantages de la CEDEAO, un communiqué que beaucoup en tout cas ont jugé très sage. Hein. Tout à l'heure vous parliez de ce communiqué de la CEDEAO. Alors quand est-ce que en tout cas ce délai de grâce va prendre fin? Est-ce qu'il est quand même important de toujours continuer à dialoguer avec la CEDEAO ou il faut aller à autre chose maintenant?
Bon, sur cette question, moi je reste optimiste parce que au dit même du communiqué, si vous voyez la conclusion du président de la commission, il dit quel qu'en soit le fait, la décision de la CEDEAO c'est de ne pas nuire aux intérêts des peuples, c'est-à-dire l'intégration des peuples, notamment la libre circulation des personnes et des biens. Maintenant, sur le protocole additionnel, ce que je vais ajouter, c'est une observation personnelle parce que quant à la CEDEAO, elle a pêché sur ce point en termes de manque d'exemplarité. Parce qu'il y a deux poids, deux lectures différentes entre ce qui se passe chez nous et ce qui se passe ailleurs. Et les transitions sur lesquelles il y a une pression, sur les transitions sur lesquelles il n'y a vraiment pas de pression pour aller aux élections. Et néanmoins, ce qui est fait. La séparation a été actée. Qu'est-ce qu'il faudrait attendre? C'est-à-dire pourquoi il y a eu séparation? Parce que dans une situation où des pays étaient en fragilité durant 10 ans, où des décisions ont été prises, notamment, il n'y a pas nulle part écrit dans les chats de la CEDEAO, d'attaquer un pays membre. Donc il y a un pacte de non-agression. Et l'annonce même pose en soi un problème. Donc pour ne pas aller sur des polémiques en polémiques, moi j'ose croire que la raison va pleuvoir. Notamment, ils vont discuter, échanger pour que, au moins, ce que j'avais dit au départ, les tensions entre l'élite, les politiques ne redescendent pas au niveau des communautés. Et si nous voyons aussi, la CEDEAO a changé carrément le ton. Parce que la CEDEAO a compris que ce qui s'est passé, elle-même, elle est remise en cause. Elle devrait faire des réformes pour que, au moins, ceux qui sont à l'intérieur de la CEDEAO puissent se reconnaître. Et notamment, comme on l'a dit, l'AES quitte, mais géographiquement, l'AES n'a pas changé. Donc, qu'on le veuille ou pas, on est obligé à un moment donné de collaborer avec la CEDEAO, soit de collaborer par des pays, ce qu'on appelle les coopérations multilatérales ou bilatérales. Et d'autres pays même ont commencé vraiment à faire des démarches, notamment il y a des pays voisins, des pays qui sont loin mais qui sont en train de côtoyer, de visiter l'AES, et vice-versa pour dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Durant les 6 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Et cette période de transition de 6 mois, la CEDEAO joue sur un calendrier qui, moi, certainement, va donner aussi à la CEDEAO de voir est-ce qu'en réalité, ce qu'elle avait demandé au départ, notamment les élections, des réformes dans ces pays vont être une réalité avant de décider. Ou ces pays aussi vont voir, l'AES aussi va dire que, compte tenu, c'est une décision souveraine, c'est une décision prise à un moment crucial de leur histoire où il y avait l'insécurité jouée due au terrorisme, que la CEDEAO n'a pas agi, mais elle a préféré être des va-t-en-guerre. Et ce communiqué de la CEDEAO met fin à toute velléité. Donc ça met fin carrément à ceux qui pensent qu'il faut vraiment aller vers une rupture douloureuse, où il faut taxer, il faut ramener, ce qu'il ne faut pas que les gens s'oublient. Vice-versa, nous sommes là, en tant que pays membre de l'AES. Contrairement, il y a les ressortissants de la CEDEAO qui sont là. Nous aussi, nous avons nos citoyens. Donc, cela veut dire qu'il faudrait conserver la libre circulation des personnes et des biens. Et au-delà, revoir même le protocole additionnel en termes de démocratie, en termes de bonne gouvernance, pour que les pays puissent se reconnaître et que les pays puissent travailler en formant deux entités distinctes ou à se retrouver de nouveau pour former les États-Unis d'Afrique.
Ok, les États-Unis d'Afrique, c'est un rêve qui, en tout cas, tarde aussi à se réaliser. Voilà. Alors, justement, M. Soko, ce n'est plus une CEDEAO va-t-en-guerre. En tout cas, les dernières sorties, sinon, depuis, en tout cas, la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue à Abuja, mais aussi le dernier communiqué que nous avons vu de la CEDEAO, on a quand même l'impression que la CEDEAO, aujourd'hui, ce n'est plus considéré comme étant une CEDEAO des chefs d'État, mais c'est pratiquement une chef d'État, une CEDEAO des peuples, des populations, parce qu'on a l'impression, quand à travers le dernier communiqué en tout cas qu'elle a fait, justement, on se rend compte que la CEDEAO se soucie plus du devenir de la population que même de ses dirigeants eux-mêmes.
Oui, effectivement, mais avant de répondre à cette question, je voudrais rafraîchir la mémoire de mon cousin Touré pour dire que le dernier candidat en tout cas où la CEDEAO voulait intervenir, ça c'est en Gambie tout près. quand Yaya Jammeh a voulu confisquer le pouvoir. Je me rappelle, le contingent sénégalais était déjà à la porte de la Gambie. On a même sommé le gars de quitter le pouvoir. Il y a eu des cas aussi au Libéria, à Sierra Leone. Donc ça veut dire tout simplement que ce que vous dites, en tout cas, ce n'est pas ça. Le protocole additionnel prévoit que quand, en tout cas, il y a rupture constitutionnelle, quand il y a violation, la CEDEAO se donne le droit, en tout cas, de rétablir l'ordre constitutionnel. Donc je crois qu'à ce niveau-là. Et deuxièmement, je voudrais quand même que les gens, dans leur analyse, intègrent aussi ce facteur. C'est vrai, nous, en tant que Mali, nous savons tous que les décisions, les sanctions qui ont été prises contre le Mali sont des sanctions comme très dures et que c'est les populations qui ont beaucoup souffert de ces sanctions-là. Donc, mais je dis, alors pourquoi chaque fois s'attaquer aux conséquences et ne pas évoquer aussi les causes qui ont été à la base en tout cas des conséquences. Donc moi je crois souvent dans nos analyses, ça manque beaucoup. Effectivement, la CEDEAO, je crois qu'il y a en quelque sorte ce mea culpa là que la CEDEAO est en train de faire parce que honnêtement elle aurait dû faire des réformes et ces réformes allaient peut-être permettre en tout cas d'échapper à ces crises-là. Mais je crois, je me dis aussi que quand une organisation s'agrandit, quand elle prend de la forme, souvent il y a ces crises sont quand même prévisibles parce que en fait les gens n'étant pas sur la même longueur d'onde, souvent on a du mal quand même à mettre tout le monde dans la même enseigne comme on le dit. Mais je crois que ce comportement de la CEDEAO, je crois que moi je le comprends parfaitement parce que en fait c'est pour tout simplement minimiser les conséquences justement d'une éventuelle, si vous voulez bien, réciprocité que la CEDEAO serait peut-être amenée à prendre, peut-être en disant tout simplement désormais on va pas, bon, c'est que sur la décision sera, des décisions seront prises à la conférence des chefs d'État à venir, mais pour l'instant, je crois que la CEDEAO veut encore donner des chances, toutes les chances en tout cas au dialogue, aux négociations pour que, en tout cas, qu'on puisse minimiser de part et d'autre les conséquences. Mais je crois qu'encore une fois de plus, il revient aux États, aux chefs d'État de l'AS de faire en sorte que, franchement, cette bonne volonté, cette main tendue de la CEDEAO soit justement prise par les chefs d'État de la CEDEAO pour que, qu'ensemble, on puisse voir et que, à défaut justement de revenir sur la décision, qu'on trouve en tout cas le juste milieu pour que les conséquences seront très minime sur les populations.
Oui, ce délai de grâce que la CEDEAO accorde aux États de l'AS, à savoir que ces États peuvent continuer à jouir des avantages de la CEDEAO, mais quand est-ce que, jusqu'à quand les États de l'AS vont profiter de ce délai de grâce?
Oui, parce que en fait, la Commission, qui est l'instance, si vous voulez bien, l'instance permanente en tout cas de la CEDEAO, ne peut pas prendre des décisions. Il faut attendre le sommet des chefs d'État. Je crois que ça ne serait plus tardé. Peut-être dans 6 mois, il y aura un sommet extraordinaire des chefs d'État. Et ce sommet-là va étudier peut-être extraordinaire parce que ce serait le cas de l'AS qui sera peut-être le seul mot d'ordre, en tout cas, le seul mot à l'ordre du jour, quoi. Donc, je crois qu'en attendant, je crois que la commission ne peut pas prendre des décisions. Donc, je crois que c'est peut-être ça explique le fait que, justement, la CEDEAO ne s'est pas précipitée pour prendre des décisions. Mais ce qui est sûr, la CEDEAO va réagir. Et j'ose quand même espérer que la CEDEAO, qu'elle tienne compte justement de l'état d'esprit des peuples, en tout cas des 3 États, qui souvent sont obligés, sont contraints justement d'accepter certaines situations, puisque d'abord, cette décision a été prise sans qu'on les consulte. Il n'y a pas eu de référendum dans aucun pays de l'AS. Et deuxièmement, je crois que si ça ne tenait qu'au peuple, franchement, je ne sais pas si le peuple va accepter qu'il y ait cette séparation-là, puisque nous sommes tellement intégrés. Et je finirai par rappeler, en tout cas, je fais ce petit cours d'histoire pour dire que, alors, un pays, nous qui sommes les petits-enfants de grands empereurs comme les fondateurs de l'Empire du Mali, et que cet Empire du Mali qui s'étendait de la forêt équatoriale jusqu'à la boucle du Niger, je ne sais pas comment est-ce que les petits-fils, en tout cas de ces grands empereurs, puissent accepter de se dissocier de ce grand ensemble. Alors que normalement, quand tu regardes sur les 15 pays de la CEDEAO, 8 sont appartenant en tout cas à l'Empire du Mali. Donc imaginez en tout cas la vision que nos ancêtres avaient et que les petits-enfants de ces ancêtres-là se comportent comme ça. C'est vraiment paradoxal.
Ok, paradoxal. Oui, une collaboration, M. Yattara, qui dure 50 ans, cette collaboration devrait prendre fin, ce n'est pas sans conséquence. Aujourd'hui, la question que en tout cas le Malien lambda se pose, est-ce que les autorités qui ont acté ces retraits de la CEDEAO, quelles sont justement les mesures prises par ces autorités? Est-ce que réellement les conditions sont réunies afin que les conséquences puissent être vraiment minimes?
Moi, je crois que ça a été une décision, à mon avis, très hâtive et pas mûrement réfléchie. Et si bien qu'en réalité, on n'a pas de postulat de base sur lequel on peut se baser et qui peut offrir d'autres conditions. que la CEDEAO. Mais il est bon quand même de replacer souvent les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'en réalité, on fait un mauvais procès, le Mali fait un mauvais procès à la CEDEAO. Je crois que pendant les 6 mois de sanctions, en réalité, ce qui nous a fait mal surtout, c'est surtout que nos fonds ont été bloqués au niveau de la BCEAO. Et à ce que je sache, l'UMOA n'est pas une structure de la CEDEAO. Comprenez, l'UMOA n'est pas du tout une structure de la CEDEAO. Et c'est dès cette sanction-là qui a beaucoup plus fait mal au Mali que les autres sanctions. Le fait que pendant 6 mois, le Mali n'a pas pu avoir accès à ces fonds bloqués au niveau de la BCEAO aujourd'hui. Et je le dis, je le répète, l'UMOA, la BCEAO ne sont pas des instruments de la CEDEAO. Mais peut-être en solidarité avec la CEDEAO, les autres chefs d'État de l'UMOA ont fait un peu les ailes en accompagnant la CEDEAO. Sinon, ce n'est pas du tout un instrument de la CEDEAO. La BCEAO n'est pas un instrument de la CEDEAO. Deuxièmement, il faut qu'on replace un peu aussi les choses dans leur contexte. On parle de deux poids, deux mesures. Mais j'ose espérer peut-être qu'il fait cas au troisième mandat. Mais généralement, le cas de troisième mandat, c'est une interprétation juridique. Vous comprenez, chaque fois qu'on change l'article d'une constitution, je crois qu'on est dans une autre république. Et on dit que nul n'a le droit de faire plus de deux mandats. Et généralement, par exemple, au Togo, au Sénégal, en Guinée, on s'est permis, en Côte d'Ivoire, on s'est permis de faire quelques retoucher la constitution pour permettre à ces chefs d'État de ces différents pays de faire de briguer un troisième mandat. Donc c'est une interprétation juridique. D'autres pensent que ça les deux mandats, quelle que soit la République, d'autres pensent que si on change seulement de République, on met tous les mandats à plat et on commence à zéro. Donc c'est une question d'interprétation juridique. C'est pas que la CEDEAO fait deux poids, deux mesures, mais c'est une question d'interprétation juridique. Mais ces trois pays aussi ont mûrement réfléchi parce que le Mali, le Niger, le Burkina font partie aussi de l'UMOA, pratiquement qui offrent les mêmes conditions par rapport au bien, au service, par rapport à la libre circulation des personnes, par rapport au droit d'établissement que l'UMOA, par rapport au Conseil de l'Entente aussi auquel le Burkina, le Niger, le Bénin et le Togo font partie, qui offrent aussi les mêmes conditions que la CEDEAO. Vous comprenez, donc le calcul est vite fait. Donc on passe, le Ghana récemment, avant que le président sortant ne quitte le pouvoir, il a pris une mesure comme ça, il ne sort pas de visa pour tous les ressortissants africains. Bon, c'est peut-être le Nigeria et la Sierra Leone et le Libéria qui se trouvent peut-être un peu isolés par rapport à ça. Donc le calcul est vite fait. Mais moi je crois que par rapport aux conséquences, moi je me rappelle le ministre des finances Sanou avait dit à un moment que le Mali en quittant la CEDEAO économiserait 120 milliards de francs CFA. Ça veut dire que l'appartenance à la CEDEAO constitue un manque à gagner de 120 milliards de francs CFA pour le Mali. Oui. Mais il dit aussi que les tarifs extérieurs communs, le TEC, le Mali en abandonnant le TEC qui est une ressource de la CEDEAO, donc assurerait leur propre tarif qui sera beaucoup plus attrayant pour les investissements et stimulerait aussi la croissance économique. Moi je crois qu'on est d'abord dans ça, mais on n'a pas encore dans les trucs trop chiffrés pour dire réellement en quittant la CEDEAO ce que nous perdrons et ce que nous gagnons. Et je crois qu'il faut encore attendre le 29 juillet qui fixe décidément la fin de ces 6 mois de période transitoire pour voir réellement la mise en exécution de ces mesures que la CEDEAO veut prendre. Qu'est-ce que ça coûtera à ces trois pays-là?
Ok. Oui, qu'est-ce que ça coûtera justement, docteur Touré, aux populations lambda? Parce que c'est ce que, en tout cas, les Maliens se posent comme question aujourd'hui. Ce retrait, évidemment, qui a été acté par les deux instances, l'AES est sorti, la CEDEAO a acté. Maintenant, les populations se posent la question, est-ce que les craintes, elles sont légitimes, elles sont là, c'est légitime, mais est-ce que réellement les mesures, en tout cas d'accompagnement, est-ce que pensez-vous que les conditions se réunissent afin de ne pas trop sentir ce divorce avec la CEDEAO?
Bon, à ce jour, on peut dire qu'il y a eu des mesures atteignantes de part et d'autre, notamment la volonté de la CEDEAO et des pays membres de l'AES à ne pas mettre des barrières, notamment à la libre circulation des personnes et des biens. Maintenant, les questions se posent au niveau des fonctionnaires des deux entités, ou à la décision qui va être prise certainement le 29 juillet quant à la conduite à tenir définitivement. Mais il est loin d'être pessimiste, mais on peut être optimiste. Parce que si on voit un peu les réformes engrangées dans les pays membres de l'AES, notamment les réformes politiques en cours, les réformes, par exemple, si nous prenons le cas spécifique du Mali, nous avons vu le code minier, et de 25%, nous sommes jusqu'à 35%, où les retombées, et au dit des autorités, l'or va briller pour tout le monde, nous avons le lithium. Il y a beaucoup de décisions qui, notamment, prises au sein des pays membres de l'AES, notamment en termes de ressources, en termes de politique, en termes de banques d'investissement et autres, et pourront donner des jours meilleurs par rapport à la CEDEAO. Mais nous sommes ici dans des propositions, nous sommes ici dans des suppositions. Parce que en réalité, pour savoir qu'est-ce qui se passe, il faudra attendre que la séparation soit actée. Mais les mesures sont déjà prises parce que si nous avons vu les drapeaux descendus au niveau de la CEDEAO à Abuja, et le drapeau de l'ASIC au niveau des institutions de l'AS, donc cela veut dire qu'ils sont en train d'aller dans un divorce plus technique, mais certainement qui va se matérialiser après, mais tout en conservant ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est toujours, comme je l'ai dit, c'est l'intégration des peuples, l'intégration des communautés. Mais il n'y aura pas de divorce sans conséquence de part et d'autre. Tel que si AS va perdre, la CEDEAO aussi va perdre. Mais en réalité, on peut minimiser. Comme c'est pour cela que je suis trop optimiste par rapport aux discussions qui seront entamées entre les deux entités, sur les points sur lesquels il faut travailler, sur lesquels il faut être intransigeant, sur les points sur lesquels il faut arrêter de collaborer.
Oui, qu'est-ce que les autorités actuelles des États de l'AS doivent en tout cas faire pour rassurer ces populations, c'est des millions en tout cas ces personnes-là qui font le déplacement entre ces États de la CEDEAO. Il y a les craintes, je parlais tantôt, qu'elles sont légitimes. Qu'est-ce que les structures doivent faire aujourd'hui pour essayer de rassurer ces populations?
Bon, ce qu'elles devront faire, c'est plutôt s'attaquer aux conditions d'amélioration. C'est-à-dire qu'il faut améliorer les conditions de vie, notamment l'économie, relancer la crise énergétique et l'employabilité et offrir presque ou plus les mêmes services que la CEDEAO. Donc, cela veut dire que les gens ne sont pas tout à fait prêts à perdre d'autres opportunités qu'ils avaient. Donc, c'est pour dire que les autorités ont vraiment du travail à faire sur ce point. Notamment, en offrant le passeport, c'est bien. Il faut aller au-delà des passeports, offrir les mêmes services et biens qu'est la CEDEAO. Cela veut dire qu'il ne faut pas que l'AS va offrir aux pays membres un service qui sera en deçà de la CEDEAO. Donc, ce qui, certainement, sera très mal aperçu par le peuple de l'AS. Donc, les autorités devront travailler plus en mettant un accent sur l'amélioration des conditions de vie des populations, en mettant l'accent sur la libre circulation, en créant l'intégration, en désenclavant les villes. Et à ce point, je suis tout à fait d'accord parce qu'il n'est pas facile de se développer à partir de l'aide. L'aide au développement n'a jamais développé. Il faut vraiment que les pays membres de l'AS s'activent à travailler en intégrant les populations, en mettant plus les projets structurels que les projets qu'on doit. Il faut vraiment que, tant qu'il y a le résultat, je pense que les populations ne seront pas dessus de l'aide. Mais au-delà de ça, les populations constatent que l'AS n'arrive pas à être opérationnel, à être au même niveau d'offres de services que la CEDEAO, là, les problèmes vont certainement commencer.
Ok, les problèmes vont commencer à ce niveau. Justement, M. Sissoko, depuis l'annonce de ce retrait le 29 janvier 2024 au retrait définitif le 28 janvier dernier, c'est un an écoulé. Qu'est-ce que ces autorités de l'AS ont en tout cas accompli sur le terrain qui font donner en tout cas l'espoir à ces populations qui sont quand même inquiètes par rapport en tout cas à cette sortie de la CEDEAO?
Oui, effectivement, une pertinente question parce que imaginez seulement qu'un an, puisque quand les États de l'AS ont pris la décision de quitter la CEDEAO, elles ont dit clairement avec effet immédiat. Donc, dans leur mentalité, dans leur subconscient déjà, c'est déjà acté. Avant même d'attendre la période, en tout cas, reconnue par les textes de la CEDEAO, qui était en tout cas une période d'un an. Mais pendant ce temps-là, cette année-là, une année entière, franchement, je n'ai pas vu d'acte qui me fonde à dire que, franchement, la sortie de la CEDEAO va être beaucoup plus meilleure que notre maintien à cette organisation. Rien que sur le plan diplomatique, à partir du moment où nous avons pris la décision de sortir, la diplomatie devrait se mettre en branle pour ne serait-ce que négocier de façon bilatérale avec les États, tout comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, par exemple. Parce que ces deux pays-là nous sont très utiles, parce que nous sommes un pays, par excellence en tout cas, de commerce, d'activité commerciale, et que 70% de nos produits consommés viennent en tout cas de l'import. Donc, alors, nous n'avons pas de débouché sur la mer. Donc, la moindre des choses, c'était justement d'entreprendre déjà des démarches vers ce pays-là pour au moins obtenir des facilités, etc., etc. Mais nous n'avons entendu rien, à part le passeport. Et d'ailleurs, le communiqué de la CEDEAO, il est dit clairement que la CEDEAO va continuer à reconnaître les passeports avec le logo CEDEAO et puis la carte biométrique CEDEAO. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que dans le communiqué, on ne fait même pas cas du passeport AS. Donc est-ce que déjà les pays de la CEDEAO vont attendre cette période transitoire de 6 mois pour justement commencer déjà à poser des actes de sanctions? Je ne crois pas. Donc, franchement, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu, en tout cas pour l'instant. Peut-être la seule chose que j'ai vue, et ça, c'est encore de la théorie, et ça, c'est sur le papier, ça, c'est la mise en place, en tout cas, des forces conjointes pour les trois États. Et je crois que, d'ailleurs, Yattara l'a dit dans son dans ses propos, c'est-à-dire que s'il y a en tout cas quelque chose sur lequel on peut fonder de l'espoir, c'est surtout sur le plan sécuritaire, que ces trois pays-là se donnent la main pour justement essayer de faire face en tout cas au péril djihadiste auquel péril ils sont confrontés. Et ça, c'était bien logique parce que et ça ne doit pas être en tout cas un motif de retrait en tout cas de la CEDEAO, parce que il y a eu le G5 Sahel avant la force conjointe en tout cas de l'AS. Donc pourquoi ne pas rester à la CEDEAO et continuer justement à mener ce combat-là, et même au combat pour le développement des trois pays sahéliens qui ont en commun justement l'aspect Sahel, qui ont en commun en tout cas d'autres choses. Donc moi je crois que franchement c'est pour des agendas politiques personnels que les autorités en tout cas des trois pays ont décidé de se retirer de la CEDEAO.
Très bien. Alors M. Abdoulaye Attara, rapidement, dernier tour de table sur cette question de la CEDEAO et l'AS. On sait très bien que le retrait est aujourd'hui acté car c'est les drapeaux de trois États ne flottent plus parmi ceux des drapeaux de la CEDEAO, les 15 pays, les 15 autres pays. Il ne reste que 12 pays maintenant. Alors justement les négociations vont justement être enclenchées parce qu'il faut quand même essayer de peaufiner et il faut remplir des formalités. Ces négociations qui vont être engagées, Abdoulaye Attara, si elles ne sont déjà en cours, quel est votre souhait? Est-ce que vous voulez qu'elles aboutissent en tout cas à un rétro-pédalage, en tout cas des autorités de l'AS pour réintégrer la CEDEAO, ou souhaiterez-vous en tout cas que ce soit définitif pour le bonheur de ces peuples sahéliens?
Pas du tout. Je souhaiterais tout au contraire que ces négociations aboutissent et que le Mali, le Niger, le Burkina puissent revenir de la famille CEDEAO. On a dit, l'AS n'est pas incompatible avec la CEDEAO. L'AS peut exister au sein de la CEDEAO, comme le Conseil de l'Entente, et comme l'OMVS. C'est vrai, c'est des organisations sous-régionales, mais au même titre que l'AS, parce que l'AS aussi est une organisation sous-régionale, parce qu'elle est fondée sur les cendres du Libertaco Gourmand, qui est une organisation sous-régionale. Donc, on n'a pas. Le Libertaco Gourmand reste aussi dans l'AS avec ses prérogatives de développement économique et sous-régional aussi. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit le faire. On doit fonder beaucoup d'espoir sur ces négociations à venir et exhorter Bassirou Diomaye Faye et Fornia Semba à venir personnellement au Mali plutôt qu'à envoyer des émissaires comme Bassirou Diomaye Faye l'a fait. Mais je crois qu'ils doivent vraiment faire le déplacement, venir physiquement au Mali, essayer de convaincre vraiment l'Assimi de pouvoir retourner dans la famille CEDEAO et avec l'AS, bien sûr, mais uniquement dans sa charte fondatrice. Moi, c'est tout mon vœu, c'est tout mon souhait parce que tout simplement. Essayer de disloquer comme ça la CEDEAO après 50 ans de coopération, après 50 ans d'intégration, ça n'a vraiment pas de sens. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'acquis pendant ces 50 ans-là dont le Mali a bénéficié. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez posé la question à M. Sissoko, mais en réalité, un an, qu'est-ce qu'on a fait? Absolument rien. Essayez et comprenez qu'on a vu le passeport de visu que après 11 mois et 15 jours, vous comprenez, la carte biométrique, on n'en parle pas. Ça a été remplacé ou pas, on n'en parle pas. Et la CEDEAO a été très claire dans sa dernière conférence des chefs d'État, notamment en son point 44, que la conférence fixe les périodes du 29 janvier au 29 juillet 2025 comme période de transition au cours de laquelle les portes de la CEDEAO resteront ouvertes aux trois pays. Vous comprenez? Donc la CEDEAO a vraiment fait de son mieux. Si au bout d'un an, vous dites avec effet immédiat, mais au bout d'un an, on n'a rien vu de concret, est-ce que réellement ils veulent quitter en réalité? Est-ce qu'ils ne veulent pas en réalité marchander encore le retour, mais tout en préservant le protocole additionnel pour que la CEDEAO ne puisse pas s'impliquer dans ça? Sinon, au bout d'un an, quand vous dites avec effet immédiat, pendant un an, vous n'avez saisi à aucune instance de la CEDEAO. Pendant un an, qu'est-ce qu'on a vu concrètement? On n'a rien vu concrètement. Jusqu'à présent, on continue à bénéficier des avantages de la CEDEAO, notamment par rapport à les projets programmes sont en cours d'exécution, les projets de la BIDC aussi sont en cours d'exécution, mais maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Okay. On aurait dû arrêter tout ça si on était vraiment de bonne foi, arrêter tout ça dès le lendemain du 29 janvier 2024, on aurait dû arrêter tout ça de façon unilatérale pour montrer réellement, résolument notre intention de quitter la CEDEAO.
D'accord. Oui, docteur Touré, votre avis par rapport à ces négociations qui sont en cours, quel est votre souhait qu'elles aboutissent en tout cas un retour des États de l'AS de la CEDEAO ou que ce soit définitif qu'on aille de l'avant?
Bon, la question qui se pose, est-ce que les deux entités peuvent collaborer et rester ensemble? AIS, CEDEAO, moi je suis de ce point de vue. Quand tu as retourné, c'est comme si, en termes politiques de souveraineté, on fait un retour au pédalage. Donc, le caractère irréversible veut dire quoi? Les PDLS doivent s'assumer, aller de l'avant et avancer. Avancer veut dire quoi? Tout en prenant garde que les peuples ne devront pas être victimes de la situation. Les peuples devront profiter des mêmes avantages et les mêmes services, ou plus que ce que la CEDEAO leur offrir, les avait offert au moment. Maintenant, les discussions peuvent être accentuées sur deux points, moi, à mon avis. C'est notamment la lutte contre le terrorisme. Il est indéniable qu'aucun État, aucun regroupement, aucune communauté ne peut se lutter contre le terrorisme. On sera obligé de facto à collaborer, soit avec l'AES et la CEDEAO, soit avec l'AES et les pays frontaliers en termes de coopération bilatérale et multilatérale. Le deuxième point, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Cela veut dire que des individus qui avaient la liberté de se mouvoir, de se déplacer, ne comprendront jamais un jour s'il y aura blocage. Donc les deux aspects, sécurité et libre circulation, devront pousser les autorités, non seulement de l'AES et de la CEDEAO, à négocier pour que, s'il y a séparation, que les deux entités se séparent. Maintenant, la question, est-ce que l'AES va revenir à la CEDEAO à ce jour? Moi, je suis très pessimiste parce que tout ce qu'on voit, il y a plutôt un fossé politique, un fossé en termes d'organisation, mais l'essentiel est là. L'essentiel, c'est quoi? C'est le peuple. Tant que le peuple des deux entités ne se manifeste pas, alors que les communiqués qui sortent de plus en plus, c'est des communiqués qui ont tendance à rassurer les peuples que concernant votre déplacement, concernant votre activité de vente, de commerce et d'intégration économique, là, il n'y aura pas de blocage. Maintenant, les peuples ne sentent pas qu'il y a menace sur leurs intérêts. Mais c'est plutôt des questions politiques, des divisions politiques qui, à mon avis, a amené ce qui s'est passé. Donc, c'est pour dire que on peut espérer que les deux entités se séparent, mais se séparent dans des conditions meilleures.
Ok, question c'est ici qu'elles se séparent dans des conditions meilleures. La séparation elle est actée, Monsieur Sissoko, en tout cas à l'heure où nous émettons cette émission. Justement, est-ce que les négociations qui sont en cours, comment devraient-elles se passer selon vous?
Bon, négociations, je pense que d'abord je me fonde à dire que la CEDEAO ne va pas prendre certaines sanctions. Ça, je suis convaincu de ça. Parce que sachant bien que en fait les décisions qui ont été prises au nom des peuples de l'AES ne sont pas des décisions en tout cas de concert avec ces mêmes peuples-là. Donc j'ose quand même espérer qu'on ne va pas faire de ces peuples-là des victimes en tout cas du combat politique entre au sommet des États. Et je pense honnêtement qu'ils vont faire de telle sorte que même si les chefs d'État se réunissent, c'est pour justement prendre quelques sanctions, c'est que sur quelques décisions seront prises et c'est des décisions qui vont quand même faire un peu mal en tout cas au pays de l'AES parce que franchement quoi qu'on dise, nous sommes des pays, les trois pays sont des pays enclavés et des pays qui ont plus besoin parce que contrairement à ce que certains pensent, nous avons plus besoin des autres que les autres n'ont besoin de nous en réalité. Et rien qu'en prenant en tout cas nos populations qui se déplacent et qui s'installent en tout cas dans les pays de la CEDEAO, prenons seulement l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il y a à peu près 10 millions en tout cas de populations, de citoyens des États de l'AES en Côte d'Ivoire. 4 millions de Maliens, peut-être 5 et quelques millions de Burkinabés et 3 et 1 million peut-être de Nigériens. Donc imaginez qu'on exige en tout cas à ces populations-là, à ces citoyens-là, des cartes de séjour ou bien de visas d'entrée, etc., etc. Donc ça va beaucoup jouer sur, en tout cas, sur notre économie, sur la libre circulation des personnes et des biens. Donc moi, j'ose espérer que la CEDEAO ne va pas justement durcir le ton, ne va pas prendre certaines décisions qui vont être dommageables, en tout cas, pour les citoyens des États de l'AES.
D'accord. Sauf que, M. Sougo, est-ce que ne pensez-vous pas que c'est trop exagéré quand vous dites que ces pays n'ont pratiquement pas besoin de nos États et qui sont nous qui avons le plus besoin d'eux. Okay. Alors nous sommes aujourd'hui dans un monde du droit d'y recevoir. Les intérêts sont partagés.
Mm-hmm. Non, je dis ça pourquoi? Parce que imaginez, j'ai parlé tantôt du taux de consommation des produits, en tout cas des produits importés que les Maliens consomment. Ça avoisine les 70%. De produits d'importation. Alors, et pour importer, il faut passer par un port maritime. Et le Mali n'étant pas en tout cas à côté d'une mer, forcément, il a besoin en tout cas de ce pays-là. Et nous, notre économie pratiquement est basée sur le commerce, sur en tout cas les affaires. Alors, pour que nous puissions en tout cas jure pleinement de ça. Il faut passer par des pays maritimes. Et ces pays maritimes, les plus proches ou les plus, en tout cas, accessibles, ça, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, c'est sur la base de ça que je me dis, alors, est-ce qu'on n'aura pas besoin, on n'a pas plus besoin, en tout cas, de ce pays-là que ce pays n'a besoin de nous. Parce que la preuve est qu'il n'y a plus de contingent, il n'y a plus de Maliens en Côte d'Ivoire que d'Ivoiriens au Mali. Il n'y a plus de Maliens peut-être au Sénégal que de Sénégalais au Mali. Parce que tout simplement, bon, je ne dis pas qu'ils se suffisent à eux-mêmes, mais parce que peut-être les conditions sont un peu plus réunies là-bas pour que les gens puissent s'installer. Alors qu'ici, il y a, peut-être nous, on est confrontés à des problèmes. Donc c'est sur la base de ça que je dis que nous avons beaucoup plus besoin d'eux qu'eux, ils ont besoin de nous.
Très bien. C'est sous nos conduits, mesdames et messieurs, sans forme de transition, au second sujet de ce débat qui va se consacrer sur cette sortie du ministre Mamani Nassiri. Les élections attendront. C'est en tout cas en ce sens que l'on peut retenir de cette phrase choc du ministre délégué en charge des réformes politiques et du soutien au processus électoral qui, je cite, avait dit, ce sont nos confrères de l'indépendant qui le citent ici, nous n'avons pas de loi électorale ni de fichiers conformes pour aller aux élections. C'était le jeudi dernier que le ministre a lâché cette phrase. Monsieur Abdallah Yattara, décidément les élections, ce n'est pas pour demain.
Effectivement, c'est pas pour demain, c'est pas une surprise quand même. Moi, en tout cas, à mon niveau, c'est pas une surprise. Je crois l'avoir dit sur plusieurs plateaux. Et au lendemain même de la rencontre entre le premier ministre, ministre de l'administration territoriale avec les partis politiques quand il prenait les fonctions, et au vu de cette conférence, de cette rencontre-là, j'ai dit que ce qu'on nous a montré, c'est que les élections ne sont pas pour 2025. C'est pas que ça a été inscrit dans la loi de finances 2025. Et d'ailleurs, comment ça a été inscrit dans la loi de finances 2025? Sans arbitrage budgétaire, et sans arbitrage technique, et sans arbitrage politique. On a juste pris le montant, on l'a inscrit dans le budget d'État et ça n'a pas passé par le processus normal de l'élaboration du budget. Donc aucun de ces acteurs-là n'a été convié à l'arbitrage technique ni à l'arbitrage politique pour pouvoir inscrire ce montant-là dans la loi des finances 2025. Vous comprenez? Donc c'était juste pour un peu de la poudre aux yeux. Maintenant, il l'a dit, c'est en prélude, moi, je pense très bien au plan d'action que le Premier ministre est en train d'élaborer, qui a commencé le 21 décembre et qui prendra fin le 5 février. Et je crois que c'est en prélude à ce plan d'action qui sûrement va montrer aux politiques que effectivement les élections se passeront peut-être dans 2 ou 3 ans. Donc c'est juste pour préparer les esprits à ça et c'est juste par rapport à ça. Sinon, d'un léger report pour 3 conditions. Le 25 septembre 2023, le Premier ministre actuel, alors ministre de l'État chargé de l'infrastructure et de la décentralisation, avait dit que les élections en février 2024 seront reportées, mais ce sera un léger report. Et c'est là pour 3 raisons. Parce que la première raison, c'était quoi? C'est que nos bases de données biométriques étaient prises en otage. La deuxième raison, c'était quoi? C'était que d'inscrire les nouveaux majeurs sur la liste électorale. Et la troisième raison, c'était de mettre en phase la loi électorale avec la nouvelle constitution. Parce que quand on votait la nouvelle loi électorale, on était toujours dans la Troisième République. Entre-temps, on a basculé dans la Quatrième République. Effectivement, il va falloir changer certaines dispositions de cette loi électorale-là pour les rendre conformes avec la nouvelle loi fondamentale. Donc, vous comprenez, ça, ces 3 conditions ont justifié le léger report. Mais aujourd'hui, on est en 2025, je crois qu'on ne parle plus de léger report. On dit maintenant, ça a été reporté, c'est négé, pas de léger report. Maintenant, il a dit qu'on n'a pas de loi électorale. Oui, on n'a pas de loi électorale, mais c'est juste des ajustements. Hein. Par exemple, dans l'ancienne loi électorale, la Cour constitutionnelle proclamait les résultats définitifs des élections législatives. Mais cette fois-ci, avec la nouvelle constitution, pour la rendre conforme avec la nouvelle loi électorale, c'est que le prérogative va être donné à l'AIGE de proclamer les résultats définitifs et des élections sénatoriales et des élections législatives. Mais le Cour constitutionnel sera uniquement chargé de proclamer la gestion des contentieux électoraux. Vous comprenez? Il y a aussi certaines dispositions que le gouvernement lui-même a prises par ordonnance. Il s'agit d'inscrire les nouveaux majeurs sur la liste électorale sur la base soit du récépissé, soit de l'acte de naissance ou d'autres pièces administratives, mais pas forcément à partir de la carte biométrique. Vous comprenez? Je crois qu'au cours de la vote de la loi fondamentale, on a fait dérogation à tout ça en son temps. On a même permis au carnet de famille de faire voter les gens avec des carnets de famille. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté. Donc je crois qu'on est encore dans, c'est pas ce qu'ils sont en train de faire. J'ai dit qu'on nous dise clairement les élections sont possibles dans 2, 3 ans, 4 ans et qu'on donne des explications. Ça vaut mieux que de nous amener à ces jeux-là. Tantôt, c'est des conditions qu'on pose par lui. Des situations qui peuvent être gérées en 1 mois, en 2 mois, mais on ne reporte des élections comme ça. Je crois qu'on nous dise la vérité. D'accord. Oui, on n'est pas peur pour les élections. Okay. Nous avons d'autres tâches. D'accord. Donnez-nous 3 ans, 4 ans. D'accord. Le peuple malien n'est pas dupe. Le peuple malien peut comprendre. On est en droit de comprendre. Très bien. Mais qu'on sorte de ce jeu-là. Quoi.
Okay. Qu'on sorte de ce jeu. Justement, Dr Touré, quelle lecture faites-vous de cette déclaration du ministre en charge des réformes politiques et du soutien au processus électoral?
Bon, la déclaration, c'est pour dire tout simplement que s'il y a élection, ce n'est pas pour demain. Donc cela veut dire qu'un report pourrait être inévitable, malgré la volonté. Et quand on parle de volonté, ça veut dire malgré l'architecture, il y a un ministre qui est en charge du processus électoral. Le budget, l'EIGE, qui a fait un travail vraiment conséquent. Malgré tout ceci, il y a d'autres conditions techniques que le ministre juge que ce sont ces conditions et qui ne sont pas à ce jour réunis pour aller aux élections. Donc ce que moi je pourrais dire, c'est la première lecture, c'est que ça va donner de la matière surtout pour les pessimistes qui pensent qu'il n'y aura pas d'élection. Deuxième point, ça va relancer l'urgence des consultations entre les partis politiques et les autorités de la transition quant à définir un calendrier ou un chronogramme clair, comme l'a dit Yattara. Clairement qu'ils décident ensemble s'il faut aller 5, 6 ans, 2 ans, 6 mois, 2 semaines, que les gens discutent ensemble pour que nous puissions savoir où allons-nous et qu'est-ce qu'il faut faire ensemble. Parce que c'est un vœu, parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait à Bamako des tensions politiques, réchauffer le climat social, ça ne vaut pas le coup. Les gens peuvent discuter et trouver un accord commun, comme je l'ai dit, en discutant surtout, en mettant pas la passion, mais en mettant la raison. Au devant des choses, les autorités et les partis politiques doivent discuter, pour moi dans l'urgence, parce que cette sortie du ministre donne vraiment de la matière. Ça commence déjà à agiter le climat politique et aussi j'espérais que les partis politiques aussi ils auront des moyens à leur disposition pour rencontrer, discuter et dégager un chronogramme consensuel pour qu'on puisse aller de l'avant.
Très bien. Je trouve que c'est une douce froide, hein, en tout cas, que les politiques viennent de recevoir, en tout cas avec cette déclaration du ministre Mamani Nassiri. Et surtout que, justement, la nomination de ce ministre le soir du 21 novembre dernier, quand le nouveau gouvernement a été communiqué à sa tête, le journal de division Abdoulaye Maïga, certains se disaient, et finalement, un ministre délégué, en tout cas chargé du soutien en tout cas au processus électoral, c'était vraiment une euphorie dans les QG politiques, des partis politiques. Aujourd'hui, une telle déclaration, c'est une douche froide.
Vous savez, on est dans le dilatoire au Mali. On est dans le dilatoire, en fait. Et je crois que c'est parce qu'on a un peuple, en tout cas, qui est très attentif, en tout cas, aux propos tenus généralement par les autorités. Sinon, je ne crois pas que, franchement, que les gens adhèrent surtout, que beaucoup de gens adhèrent en tout cas à certaines décisions prises par les autorités, surtout les décisions relatives justement à la tenue des élections. Vous savez, ce que le ministre a dit, le ministre délégué a dit, franchement, c'est effectivement une douche froide pour les états-majors des partis politiques, parce qu'on ne peut pas imaginer que d'un léger report, il l'a rappelé, qu'on puisse en tout cas nous dire encore que les conditions ne sont pas réunies pour même parler des élections. Parce que pour lui, il a parlé de loi électorale, du fichier électoral, etc., etc. Mais je crois que je me rappelle bien quand le président de l'EIGE a tenu une conférence, il avait dit clairement que, en tout cas, l'EIGE est prête. L'EIGE est prête pour les élections. Alors qu'on vienne nous dire, en tout cas, 15 mois après le report, léger report, que les conditions ne sont pas encore réunies. Je crois qu'il y a un manque de volonté de la part des autorités d'aller à ces élections. Je suis d'accord avec Yataraka, il dit qu'il vaut mieux quand même que les autorités disent clairement et de façon peut-être résolue, que nous ne pouvons pas tenir les élections avant telle date et pour telle ou telle raison. Au moins, ça aura l'avantage en tout cas de nous sortir en tout cas de l'imbroglio, du doute, etc., de la suspicion. Et surtout que si c'est des arguments quand même qui sont des arguments très convaincant. Je crois que le peuple ne peut pas ne pas être en tout cas sensible à ça. Donc, encore une fois de plus, je crois que la manière avec laquelle, en tout cas, ces autorités-là sont en train justement de mépriser la classe politique et de mépriser même le peuple, parce que pour moi, c'est un mépris. Il faudrait que cette façon-là s'arrête et que, franchement, nous sommes un vieux pays, un pays où il y a vraiment des ressources humaines compétentes. Franchement, il faut qu'on sorte de ça, de ce dilatoire-là, encore une fois de plus, pour qu'on aille de l'avant.
Oui, qu'on aille de l'avant, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette émission, car il ne nous reste que trois petites minutes. Hein. Allez de l'avant, dernier mot rapidement, si vous aviez aujourd'hui un conseil particulier adressé au ministre Mamani Nassiri par rapport, en tout cas, à cette sortie, mais aussi à l'éventualité d'une élection à venir, M. Abdelayatara.
Bon, est-ce que c'est à lui qu'on doit s'adresser? Non, je crois qu'il est juste porteur d'un message. Comprenez, lui, il est juste porteur d'un message et qu'il ne peut pas le dire sans l'aval, sans avoir au préalable consulté le Premier ministre en venant à la conférence de presse pour l'ouverture de l'atelier. Je crois qu'il a dû beaucoup échanger avec le Premier ministre, le ministre titulaire chargé de la réforme et de la décentralisation. Et je crois que si la personne à laquelle je dois m'adresser, ce n'est pas moi, c'est au ministre d'État chargé de la réforme et de la décentralisation, c'est pour lui dire qu'aujourd'hui, nous voulons aller vers les élections et qu'ils nous disent clairement qu'est-ce que tant il faut-il observer pour aller aux élections et qu'ils nous disent concrètement et qu'ils fassent en sorte que les partis politiques reviennent au cœur de la démocratie et que les partis politiques puissent prendre une place importante dans ce retour à leur constitutionnel.
Ok, oui, docteur Touré, les élections, c'est justement c'est le corollaire de la démocratie, mais bon, on a quand même l'impression qu'une bonne partie aussi du peuple n'est pas apprécié qu'on aille aussi à ces élections, docteur Touré.
Bon, en termes de qu'on aille aux élections, c'est tout à fait normal parce qu'il faudrait que la transition prenne fin. Donc, à défaut, il faut un calendrier clair en consultation avec les partis politiques. Mais quand il s'agit de prioriser les avis divers, parce que moi, je suis pro-sécurité, comme je l'ai dit, il faut assurer la sécurité et trouver des financements pour notre route, l'Ero Gomokro Tombouctou, puisqu'on puisse en sortir du désenclavement. Ça, c'est un peu mon combat. Okay. Maintenant, pour les partis politiques, il y a juste ce que je tiens vraiment aux autorités de la transition en les rappelant que vraiment, nous comptons sur le bon sens. Il faut que la raison prévale, qu'ils appellent les partis politiques, qu'ils discutent entre eux. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de tension. Parce que les tensions amènent à ce que nous qui sommes au nord, on devient inquiets de la situation. Qu'ils appellent les partis politiques, ils discutent entre ensemble. Je sais que quand ils vont les appeler, ils vont discuter, ils vont certainement trouver un consensus entre eux. Parce que les partis politiques sont là, c'est le rôle d'aller vers les élections. Ils ne peuvent pas arrêter les bras croisés.
Sauf qu'on a quand même l'impression que dans cette partie, personne ne fait confiance à personne.
Oui, c'est-à-dire que tout ça, c'est la passion. Parce que comme je l'ai dit, ce qui nous manque souvent, c'est de mettre la main sur le cœur, vraiment qu'on raisonne. Okay. Même si on ne s'entend pas, mais à cause du Mali, à cause de l'apaisement du climat politique social, les hommes doivent discuter en mettant carrément les appréciations, les ondes. Parce que dans tous les cas, nous sommes maliens, on est condamnés, comme je l'ai dit, à vivre ensemble. On n'a pas le choix. Il faut que les autorités s'entendent avec les. Tant qu'il n'y a pas cette entente, nous qui sommes au nord, au centre, vraiment, on est inquiets. D'accord. Parce que quand Bamako chauffe, n'en parlons pas de nos problèmes.
Moi aussi, vous oubliez également le sud.
Chez moi, à Kaye aussi, on a besoin de route. Hein. Voilà. Bon, bref, en fait, moi, ce que je dirais comme conseil, c'est au président de la transition, pas au ministre d'État ni au Premier ministre, mais c'est au président de la transition. Parce que c'est lui le père de la nation, c'est lui le premier responsable du pays. Franchement, qu'il prenne conscience, en tout cas, des difficultés des Maliens. Et que ce statu quo-là, franchement, n'a que trop duré. 5 ans de transition, je crois que c'est largement suffisant. Il faut qu'on passe à autre chose. Et il faut qu'on sorte, en tout cas, de cette situation exceptionnelle et qu'on aille vers le retour à l'ordre constitutionnel. S'il veut être candidat, si la loi le permet, qu'il fasse acte de candidature et qu'on sorte de ça maintenant. Franchement, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Les investisseurs sont partis et la crise va de façon ascendante. Et franchement, les gens souffrent énormément. Okay. La crise énergétique, la crise économique, la crise financière, les Maliens sont vraiment fatigués et qu'ils doivent prendre conscience de ça pour sortir en tout cas. S'il aime bien son peuple, qu'il le sorte en tout cas de la crise.
Ce sont donc les derniers mots de M. Sissoko et ce sont ces mots que nous allons refermer ce numéro de votre émission, le QG de l'actu, qui avait comme invité Dr. Ahmadou Touré, analyste politique et sécuritaire au Mali. C'est un plaisir, docteur. Deuxième invité de ce débat, Abdelayatara, président des consultants du Mali. Merci à vous aussi, M. Abdelayatara. Troisième invité, invité, Youssouf Cissokho, il est le fondateur du groupe Alternance. Merci à vous, M. Cissokho. Merci à la grosse équipe qui nous a aidé à réaliser, à sa tête, Augustin Choubéi, Lamine Koulibaly. La technique était assurée par Bokar Taouré, Grambé et Klendoui, à Moussa Haïdara, Youssouf Sangaré. Et à très vite sur Djoliba FM. Au revoir.